Audiolib présente Le temps d'après de Ginny Gland, traduit de l'anglais par Josette Chiche-Portich, lu par Gauthier de Fauconval. À la mémoire de mes grands-mères, Hilda Björkland Egland et Reza Adams-Thompson, et à mes petites filles chéries, Ella, Clara, Lily et Céleste Shapiro, et Anya et Georgia Mammon. Commencer une histoire, c'est comme plonger dans une rivière. C'est ce que dit tout le temps Nell. C'est comme sortir une main en coupe, toute dégoulinante de l'eau fraîche puisée dans ses flots. Voici un nouveau présent, dit une nouvelle histoire. Bois à longs traits et laisse-le te remplir. Eva dit qu'une histoire qu'on raconte est une histoire morte. Elle dit que chaque nouvelle seconde est une étincelle qui absorbe la chose qu'elle éclaire. Elle dit qu'une histoire est juste ce qui reste après que cet éclat lumineux a été réduit en cendres, comme un pot modelé en argile crue et cuit au feu. Eva dit qu'une histoire peut être une chose utile et peut être belle, mais qu'elle n'est vraiment précieuse que parce qu'elle repose sur autre chose. Nell dit que les histoires n'ont pas une fonction unique, car le contenu d'une histoire n'est jamais toujours le même. Comme des pétales sur l'eau ou la fumée dans le vent, elle dit que la signification d'une histoire suit toujours le fil de la narration. C'est pourquoi, si nous souhaitons attraper le sens général qu'une histoire élabore, il nous faut écouter le plus possible à pleines oreilles et avec attention. Quel pourrait être le contenu de cette histoire? Je ne le sais pas encore, car je la raconte en même temps que je la vis. Je l'envoie au-delà de notre forêt et de ce présent connu, dans l'espoir qu'elle trouve à se loger dans quelque esprit lointain. Comment ça fonctionne au juste? Je n'attrape pas le sens en toute clarté, même si cette histoire n'est peut-être pas beaucoup plus chargée en mystère que la magie avec laquelle mes mères et moi partageons sans cesse des histoires, les sons qui sortent de nos bouches éclosant en images dans nos esprits, et ces images faisant ensuite jaillir des étincelles de sentiments et germer des pensées et façonner des sens qui grimpent comme la vigne vers d'autres histoires. Mes mères m'ont parlé des autres moyens que les gens utilisaient pour se passer des histoires quand leurs esprits étaient trop distancés pour entendre les mots voisés, les téléphones et les films et les radios et la lecture. Je n'ai jamais vu de film ni de téléphone. Et bien que Nell m'ait appris à lire l'automne où j'ai eu 6 ans, une fois qu'on a perdu nos 3 livres et nos 6 magazines, je n'ai plus eu la bonne chance de pratiquer ce savoir. La radio qu'on avait trouvée dans la grange après la première fois qu'Eva était partie vagabonder était aussi morte, comme disent mes mères, qu'un ordinateur le serait aujourd'hui. Une moisissure blanche duvetait ses piles et ses boutons étaient tout collants de pisse de rat. Malgré tout, je suis resté émerveillé par cette radio pendant de nombreuses respirations, forçant mon esprit à imager des voix et des musiques montant de cette étrange boîte. Mes mères m'ont raconté les ordinateurs aussi, comment autrefois ils propageaient des histoires plus vite que la pensée. Nell dit que dans le monde d'avant, les gens étaient persuadés que les ordinateurs pouvaient relier la Terre entière grâce à une toile d'araignée qui s'étendait sur toute la planète. Mais Eva dit que les ordinateurs ne reliaient que certaines choses, qu'ils faisaient si bien mépris du grand tout que les gens qui étaient ordinateurés croyaient vraiment qu'il n'y avait rien que leur machine ne pouvait pas savoir ou faire pour eux. C'était une mystification, dit Eva, ce qui veut dire une ruse cruelle pour tromper les gens. Et ceux qui y croyaient ne se rendaient pas compte qu'en y croyant, ils précipitaient la fin du monde dans lequel ils étaient nés. Mes mères disent que j'ai reçu la plus étrange éducation qu'on pourrait jamais imaginer. Un enfant dont les deux mères sont sœurs et les seuls êtres humains vivants qu'il a jamais connus. Elles disent aussi que l'époque actuelle est des plus étranges. Nous trois, vivant dans et de et avec notre forêt, comme si aucune civilisation n'avait jamais existé. Ni la civilisation babylonienne ou romaine, ni la civilisation maya ou chinoise, ni la civilisation précolombienne ou la civilisation occidentale, ou aucune des autres dont mes mères m'ont raconté l'histoire. Mais ma vie ne